Nzamba.
Nzambi la samirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Nous sommes samedi 26 mars 2022. Vous êtes bien sur la radio Nzamba Gatikakawe. C'est le moment du journal dont voici d'abord les titres. Le Vatican pourrait-il jouer le rôle de médiateur dans la crise burundaise? C'est une hypothèse d'un expert politologue sur les questions de la visite du président Évariste Ndayishimiye au Saint-Siège. Les eucalyptus devraient servir utilement au même gouvernement qui cherche à les exterminer. Le Forum pour le renforcement de la société civile recommande notamment d'en tirer des bancs pupitres pour les écoles qui n'en disposent pas. Et puis, quel pourrait être l'impact de la récente fixation des prix de certaines denrées alimentaires par le gouvernement? C'est à cette question que tentera de répondre le mini-magazine au cœur de la société. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Le président burundais est en visite au Vatican. La recherche d'un médiateur dans la crise burundaise pourrait être l'une des raisons de cette visite. C'est une analyse du politologue Gérard Ebilanamidje. Dans ses explications, l'expert établit par ailleurs une comparaison. Dans ses explications, l'expert établit par ailleurs une comparaison entre la manière de prier du pouvoir d'Evariste Ndayishimiye et celle du pouvoir du défunt Pierre Nkurunziza. On l'écoute.
Le premier axe est lié au rôle du Vatican en tant qu'un réseau qui structure une certaine politique d'influence internationale. Et là, je pense que cette visite rentre dans ce schéma au regard de la situation que le Burundi a vécue depuis 2015. Il s'agit sans nul doute d'une visite qui va permettre au Burundi de pouvoir profiter de ce vaste réseau constitué par des chrétiens au sommet jusqu'à la base pour en fait changer l'image du pays. Deuxième chose, c'est le Vatican, c'est une grande force morale dans la résolution pacifique des conflits. Et on peut dire même que le Saint-Siège, à la tête duquel se trouve le pape, incarne un certain leadership moral et spirituel, renommé, reconnu. Si bien que, si on reste dans le contexte burundais, ce n'est pas le président Ndayishimiye qui dira le contraire, le Burundi reste toujours traversé par des conflits. Et ces conflits, évidemment, ont besoin d'être résolus. Donc, la visite peut s'inscrire dans la recherche peut-être des médiateurs pour résoudre définitivement le conflit ou pour gérer de manière rationnelle ce conflit. Le troisième aspect, le Vatican, c'est aussi un état religion, mais c'est aussi le siège du catholicisme romain. Et le Burundi, c'est un pays catholique à plus de 60%, un pays chrétien à plus de 90%, etc. Et du coup, il y a, je dirais, un passage d'un Burundi où on trouve le président Nkurunziza qui était un born again dans la mouvance des nouvelles religions et qui entretient quand même des relations tout à fait complexes et confuses avec l'Église catholique. C'est le passage d'un Burundi born again, dirigé par un born again, à un Burundi dirigé par un catholique again. Cette visite sera à même de légitimer certaines positions de pouvoir du président Ndayishimiye si on regarde même les pratiques actuelles ou les prières ou les visites dans les églises, etc.
Les autorités devraient se servir utilement des eucalyptus pour fabriquer des bancs pupitres pour les écoles. C'est un clin d'œil du Forum pour le renforcement de la société civile. Le FOSC interpelle le gouvernement dans ce sens après avoir constaté que les élèves dans la plupart des établissements primaires s'assoient à même le sol. Le Forum prend pour exemple l'école fondamentale Kabogi de la commune Ndava en province Mwaro. Ernest Nkurunziza, secrétaire exécutif du FOSC, fustige les injonctions qu'il qualifie de malheureuses des dirigeants, appelant les Burundais à arracher les eucalyptus de leurs champs pour les remplacer avec d'autres plantes. On l'écoute.
En effet, ça fait très mal de voir les conditions d'apprentissage dans lesquelles croupissent les enfants de l'école fondamentale. Au carrément pupitre, dans des salles de classe, les enfants s'assoient par terre, sur des pierres et des troncs d'arbres. C'est regrettable de voir une telle situation dans ces temps militaires. Quand tu entres en classe de deuxième année fondamentale à l'Ekofo Kabugi, commune Ndava, province Mwaro, tu as la chair de poule d'observer au moins 150 enfants entassés, assis par terre, les colonnes vertébrales courbées sur leur cahier de notes, dans un pays plein de matières premières pour la fabrication des bancs pupitres. On se pose la question de savoir pourquoi le pouvoir du CNFDD envisage et exige la destruction des plantations d'eucalyptus au moment où ces derniers pouvaient être utilisés pour pallier à ce problème sérieux de manque de bancs pupitres dans les écoles burundaises.
Le don de carburant récemment accordé par le Japon au gouvernement burundais devrait aider dans la constitution d'un stock stratégique carburant. C'est Gabriel Ofsili, président de l'ELUCOM, qui le dit. Il réagit ainsi aux propos du ministre des Affaires étrangères, Albert Shingiro, qui avait annoncé que ce don serait revendu aux particuliers et que l'argent reçu servira à financer certains projets de développement. Pour Gabriel Ruffieri, c'est la constitution de ce stock stratégique qui est prioritaire et qui serait l'une des solutions aux problèmes de pénurie de carburant souvent constatés dans le pays. On l'écoute.
Nous pensons que la bonne gestion doit être de mise, mais deuxièmement, on ne voit pas comment le gouvernement décide de vendre le carburant au privé au lieu de constituer le stock stratégique. Parce que nous avons un problème de carburant, d'approvisionnement. Vous voyez même quand le gouvernement décide de revoir à hausse les prix à la pompe, le carburant reste problématique. Un autre problème, c'est que le parc pétrolier de Gitega, qui appartient au gouvernement, a été donné à Interpetrol. Malheureusement, le gouvernement n'a aucun stock stratégique actuellement, c'est-à-dire s'il y a pénurie, le gouvernement ne peut pas avoir de carburant pour approvisionner les stations. Donc, tous les pays fonctionnent comme ça, ils doivent avoir des réserves et on ne comprend pas pourquoi les choses ne changent pas. Nous demandons à ce qu'il y ait retrait à Interpetrol de ce stock stratégique pour que le gouvernement puisse avoir ce stock stratégique parce que c'est extrêmement important pour le pays.
Rappelons que le don de carburant du Japon équivaut à 400 millions de yens, soit 3,4 millions de dollars américains. Une courte pause et on se retrouve pour la partie magazine de cette édition.
Pourquoi le port du masque est-il obligatoire pour les personnes vaccinées? En l'état des connaissances, les vaccins aujourd'hui disponibles ou en cours de développement réduisent la sévérité des symptômes. La contagiosité diminue également et ne disparaît pas totalement. Les gestes barrières, dont le port du masque, restent donc nécessaires même après la vaccination.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakaoui.
Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se focalise sur la fixation des prix de certaines denrées alimentaires par le gouvernement. Au cœur de la société, vous est présenté par Emile Niwasumba.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agathe Kakaoué, Radio RPA Ijuya Nyagihugu ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Au départ, c'était le maïs. Au début de la semaine, le gouvernement a également fixé de nouveaux prix pour les pommes de terre, le riz et le haricot. Y a-t-il un avantage pour l'agriculteur lorsque le gouvernement fixe des prix pour ses denrées alimentaires? C'est la principale question à laquelle le magazine au cœur de la société de ce 26 mars 2022 va essayer de répondre. Vous êtes avec Emile Niwasumba. Soyez les bienvenus. C'est le lundi dernier que Deogi Durema a lancé la campagne de collecte et d'achat du maïs, du riz et du haricot chez les agriculteurs. C'est la seconde campagne après celle effectuée en avril 2021. Le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage a également fixé les prix de ces denrées.
Pour les grains de maïs, le prix d'un kilogramme sera de 800 francs bou et le prix de vin sera fixé à 1100 francs bou. Dans les stocks de l'agence Anagessa, 1200 francs bou le kilo pour les consommateurs. Pour les pommes de terre, un kilo sera vendu à 700 francs bou rondés par le cultivateur à Anagessa qui prévoit les garder dans ses stocks. Mais pour le consommateur, le prix ne sera pas de moins de 900 francs bou le kilo. Quant au riz ordinaire, le cultivateur va le vendre à Anagessa à 1200 francs pour le kilo. L'agence Anagessa, à son tour, le revendra à 1500 francs pour le kilo aux commerçants. Et ces derniers le vendront à 2200 francs pour aux consommateurs. Mais pour le riz de qualité, le cultivateur va le vendre pour 1300 francs pour et Anagessa va le revendre pour 1700 francs pour le kilo aux commerçants. Et ces derniers vont le vendre pour 2400 francs. Le haricot Dijon, le cultivateur va le vendre pour 1400 francs pour chez Anagessa. Cette dernière, par la suite, va le vendre pour 1800 francs aux commerçants et ces derniers vont vendre pour 1900 francs bou aux consommateurs. Le haricot d'autre type que le haricot jaune va être vendu pour 1300 francs par le cultivateur. Par la suite, la Anagessa va le vendre pour 1700 et 1800 francs pour le consommateur. Quant au haricot mélangé, le cultivateur va vendre le kilo à 900 francs puis vendu pour 1300 francs bou le kilo par Anagessa. Les commerçants vont le vendre pour 1400 francs bou aux consommateurs.
Ça, Igiwombi, la matanane et Kumugudu.
Au cœur de la société.
Parole aux auditeurs.
Nos confrères de la télévision Renaissance se sont entretenus avec certains agriculteurs. Ils ont dit ce qu'ils en pensent.
Nous considérons que c'est un vol organisé par l'État. C'est une spéculation faite par l'État pour exploiter le petit paysan cultivateur. Par exemple, il veut l'acheter à 900 francs bou 1 kg de haricots qui coûte 1300 francs bou au marché. Est-ce que vous n'y voyez pas une spéculation? Nous demandons à l'État de revoir ses prix à la hausse. Si l'État est réellement responsable, il devrait rémunérer les efforts de ses citoyens à leur juste valeur.
Ils achètent notre production à un prix inférieur à celui du marché. Par exemple, le prix d'achat d'un kilogramme de maïs est de 800 francs bou, alors qu'il coûte 1000 francs bou sur le marché. Pourquoi l'État nous oblige-t-il à vendre notre production à la Anagessa, alors qu'il y a moyen de gagner plus sur le marché? Pourquoi chaque cultivateur ne vendrait-il pas lui-même sa production directement au marché, surtout que l'État va revendre ce qu'il a collecté à un prix élevé? Moi, je pense qu'on devrait laisser le cultivateur vendre sa production là où il veut, au mieux 10 ans.
L'année dernière, nous avons vendu notre production de maïs à 660 francs bou par kilogramme. Mais après, nous avons acheté à 1000 francs bou 1 kg de maïs. Qui est responsable de ce manque gagné? Croyez-vous qu'un cultivateur comme moi retomberait dans ce même piège encore une fois? C'est inadmissible. On ne peut pas commettre la même erreur deux fois.
Au cœur de la société.
Qu'en dit l'expert?
Selon l'économiste Faustin Ndikumana, les prix ne devraient pas être fixés de cette façon.
En matière de marché agricole, le plus important, c'est la production et l'offre et le pouvoir de conservation, de transformation. Et j'imagine que le gouvernement devait plutôt s'attirer à faire une politique d'augmentation de la production, de l'offre agricole sur le marché et la capacité de transformation. Sinon, quand la production est là, et une entité achète la production aux agriculteurs et elle va la revendre avec une marge bénéficiaire, encore une fois, et elle va la revendre aux commerçants, les commerçants qui pourront encore une fois vendre aux citoyens ordinaires, aux consommateurs. J'imagine là que l'avantage n'est pas énorme, parce que la Genessa, et je ne sais pas si elle a une valeur ajoutée qu'il donne à la production agricole, à cette production agricole.
Au micro de nos confrères de la radio Inzamba, le président de la PARSEM indique que les fixations des prix devraient être libéralisées.
Même si la production elle est là, il y a d'autres coûts qui s'ajoutent à la production agricole, notamment le transport. Du moment qu'il y a des problèmes au niveau du transport, l'état des routes, et le problème de carburant, tous sont des éléments qui viennent s'ajouter inexorablement sur le coût de la production agricole. Si le gouvernement ne prend pas des mesures pour trouver solution à ces défis, on n'empêchera pas les produits agricoles à augmenter. Augmenter la production et maîtriser ses coûts supplémentaires liés au manque de carburant, l'état des routes, les taxes ici et là, en cours de route, les barrières non tarifées qui gênent la circulation des marchandises ici à l'intérieur du pays.
Pour acheter ces denrées alimentaires chez les agriculteurs, le gouvernement aura besoin de plus de 87 milliards de francs burundais, selon le ministre Deogi de Rurema. Le gouvernement aura ensuite des bénéfices après la vente. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 26 mars 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous étiez avec Emile Nibasumba. Au revoir.
C'était l'émission au cœur de la société.
Merci à vous aussi, Émile Nibasumba. Et pour terminer, passons à la revue de presse hebdomadaire. Et c'est avec vous, Valérie Mouch.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Bienvenue, chers auditrices et auditeurs de la radio Inzamba Agathe Kakaoué, dans cette revue de presse que nous commençons par cet article publié par SES Media qui écrit sur le réchauffement diplomatique entre Gitega et le Vatican. Contrairement à son prédécesseur, dont les services s'arrogeaient le droit d'insulter les représentants du Saint-Siège, le président Évariste Ndayishimiye compte renouer les relations qui s'étaient détériorées avec le Vatican. Il s'est envolé ce jeudi direction Rome. Les relations s'étaient détériorées surtout lors des 5 dernières années de pouvoir de son prédécesseur Pierre Nkurunziza, dont les services n'hésitaient pas à insulter les évêques catholiques. C'est le cas par exemple de son conseiller en communication, Willy Nyamitwe, qui en 2019 disait, je cite, « Certains évêques devraient être défroqués car c'est devenu une habitude. À la veille des élections, ils doivent cacher leur venin de haine à travers des messages incendiaires. » Fin de citation. Page société pour continuer, mairie de Bujumbura, une distanciation physique entre les églises qui dérangent, titrait le journal Iwachu cette semaine. 17 églises sont implantées sur un rayon de 2,5 km dans des quartiers des zones Kamenge et Chibitoke. Au quartier Mirango 2 de la zone Kamenge par exemple, sur la route nationale numéro 1, se trouve une chapelle catholique de la paroisse Kamenge. À moins de 40 mètres de la chapelle se trouve l'église baptiste de la parole vivante de Kamenge. De l'autre côté de la même chapelle, à 30 mètres, est érigée l'église Shama Sainte. Sur la même avenue, à peu près à 100 mètres, se trouve l'église des Témoins de Jéhovah. À 50 mètres, il y a l'église dénommée Fraternité Évangélique Christ d'Afrique du Burundi. À 100 mètres de là, est implantée l'église Word of Life Liberation Church. Cette église sur un rayon de moins de 500 mètres. Or, le ministre de l'Intérieur recommande qu'une église et une autre doivent être séparées par au moins 500 mètres en milieu urbain et 1000 mètres en milieu rural. Des problèmes se remarquent selon le journal Iwachu, notamment les interférences des voix et des chants les jours de culte, sans oublier les tapages qui dérangent les populations environnantes. Et pour cette raison, le ministre de l'Intérieur a écrit, en date du 12 mars 2022, une correspondance au gouverneur des provinces, le recommandant de prendre des mesures à l'encontre des églises et confessions en situation irrégulière. Toujours en page société, avant de clôturer cette revue, les femmes rurales, ces véritables poumons du développement, écrit Burundi Echo. La femme rurale est le pilier du développement économique des ménages. Sa contribution joue un rôle primordial dans le développement des familles et du pays. Même si des avancées sont réelles, elles font face à beaucoup de défis, surtout les femmes rurales, selon toujours Burundi Echo. Ces dernières manquent de renforcement des capacités sur les techniques agricoles, celles de la gestion de l'environnement. La problématique de limitation des naissances fait également partie des défis. Il est difficile de se développer quand elles sont toujours enceintes. Des séances de formation et sur le planning familial sont nécessaires, selon toujours Burundi Echo. Voilà, madame, monsieur, c'est par cet élément de Burundi Echo sur la femme que nous bouclons cette revue de presse. Vous étiez avec Valérie Mucho. Au revoir et bon week-end à tous.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
C'est par vous, Valérie Mucho, que prend fin cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamba Gatika Kawe pour la production de ce journal. À toutes, à tous, je vous souhaite un agréable week-end. Au revoir.